Première épître à Timothée, chapitre 5, à partir du verset 23. Ne bois plus de l'eau seulement, mais use d'un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Les péchés de quelques hommes sont manifestes d'avance et vont devant pour le jugement, mais ceux d'autres hommes aussi les suivent après. De même aussi les bonnes œuvres sont manifestes d'avance, et celles qui sont autrement ne peuvent être cachées. Que tous les esclaves qui sont sous le joug estiment leur propre maître digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés, et que ceux qui ont des maîtres croyants ne les méprisent pas parce qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant plus que ceux qui profitent de leur bon et prompt service sont des fidèles et des bien-aimés. Enseigne ces choses et exhorte. Si quelqu'un enseigne autrement et ne se range pas à de saines paroles, savoir à celle de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, ne sachant rien, mais ayant la maladie des questions et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les paroles injurieuses, les mauvais soupçons, les vaines disputes d'hommes corrompus dans leur entendement et privés de la vérité, qui estiment que la piété est une source de gain. Or, la piété avec le contentement est un grand gain. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Mais ayant la nourriture et de quoi nous couvrir, nous serons satisfaits. Or, ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège, et dans plusieurs désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car c'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent. Ce que quelques-uns ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs.
La dernière fois, nous avons vu en particulier le verset 22 de ce chapitre 5. Comme ça fait un peu de temps, je rappelle juste que nous sommes dans un chapitre qui montre plusieurs exemples dans la maison de Dieu de ce qui convient du bon ordre. Et ce verset 22 vient après le paragraphe précédent qui nous parle des anciens, de leur position et aussi des choses qui peuvent arriver. Et maintenant, nous avons « n'impose les mains précipitamment à personne ». C'est une instruction de Paul à Timothée pour montrer que nous pouvons déshonorer Dieu en ayant part à des œuvres ou des voies coupables sans que nous les fassions nous-mêmes. N'impose les mains précipitamment à personne, ce n'est pas vis-à-vis du monde, c'est n'impose les mains. Donc c'est l'éloignement du mal dans le cadre de la maison de Dieu. Donc nous pouvons déshonorer Dieu en ayant part à des œuvres sans les faire nous-mêmes, et le but de la séparation vers Dieu ou pour Dieu, c'est d'avoir cette communion pratique heureuse avec lui et non pas affaiblie ou éteinte. Ce verset 22 soulève la question que nous pouvons appeler des associations. Nous avons relevé plusieurs versets qui traitent de cette question dans le Nouveau et l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, nous avons vu dans 2 Jean, il nous est dit de ne pas recevoir ou de saluer de faux docteurs. Dans 2 Timothée 2, il nous est dit de se séparer des vases à déshonneur. Dans Hébreux 13, nous voyons qu'il nous faut sortir du camp vers lui, c'est-à-dire sortir des systèmes religieux, ne pas nous y associer. Et dans l'Ancien Testament, nous avons de nombreux exemples qui montrent que c'est une pensée générale de Dieu. Nous avons les fils de Corée en nombre 16. Nous avons l'exemple d'Élie, le prophète, dans le livre de Samuel vis-à-vis de ses fils. Et aussi, nous avons relevé en Josué 9 les voisins des fils d'Israël qui se sont présentés et où on n'a pas interrogé l'Éternel. Nous avons dit aussi qu'il ne faut pas imposer les mains précipitamment. C'est-à-dire que il nous faut attendre le temps imparti lorsque le travail de l'esprit a convaincu le cœur. C'est au bon moment. Ne participe pas au péché d'autrui, garde-toi pur toi-même. Dieu est saint et entièrement séparé du mal. Nous aussi, nous devons rechercher à avoir une conscience pure, sans reproche, éclairée quant au bien et au mal par la parole de Dieu. Nous avons parlé de l'exemple de Daniel qui ne s'est pas souillé par les mets délicats du roi. Garde-toi pur toi-même.
Nous reprenons donc au verset 23. Ne bois plus de l'eau seulement, mais use d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. C'est un verset qui est plutôt une parenthèse par rapport au développement qui nous est donné dans ce chapitre 5. Et nous voyons que l'apôtre Paul épanche son cœur à Timothée et nous voyons qu'il lui dit directement « Ne bois plus de l'eau seulement, mais use d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » L'expression en grec de « ne bois plus de l'eau », cela signifie « ne sois plus un buveur d'eau, mais à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions, eh bien, il lui recommande de prendre un peu de vin. » Et à travers ce verset, nous voyons la tendre sollicitude de l'apôtre Paul vis-à-vis de son bien-aimé enfant. Un père dans la foi qui s'adresse à son enfant. Et pour nous, c'est sans doute un modèle de relation fraternelle. Et avons-nous à cœur de l'état du cœur, de l'état de nos frères et sœurs que nous côtoyons habituellement. Et est-ce que nous avons ce désir de d'épancher nos cœurs vis-à-vis de ceux qui nous entourent dans la vie de l'Assemblée? Et nous voyons à travers cette expression, cette parenthèse, sans doute le cœur d'un apôtre, mais aussi le cœur d'un pasteur, d'un cœur d'un berger qui prend soin de sa brebis. Et c'est sans doute aujourd'hui quelque chose qui devrait nous parler, nous interroger. Quel type de relation nous avons les uns vis-à-vis des autres? Est-ce que nous avons un cœur comme l'apôtre, un cœur plein d'amour et avec ce désir de venir en aide à quelqu'un? À cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions, il semble que que Timothée connaissait des privations. Et certains auteurs anciens, au moment du réveil, se sont posé la question, est-ce que c'était un jeune frère qui s'adonnait à la prière, mais avec le jeûne, en se privant lui-même de nourriture. Et donc, nous voyons ce conseil de l'apôtre Paul d'user d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Nous voyons bien que le vin, là, n'est pas utilisé pour le plaisir de Timothée. Et peut-être que nous pouvons nous interroger maintenant sur ce qui nous est dit sur le vin, peut-être dans le Nouveau Testament. Nous voyons qu'au chapitre 3 d'un Timothée, si nous jetons un regard à propos de celui qui aspire à la surveillance, eh bien, il doit être sobre, verset 2, et à la fin du verset 2, non adonné au vin. Non batteur, mais doux, non querelleur. On peut faire sans doute la relation entre le fait de ne pas être adonné au vin et ce qui suit. Non batteur, mais doux et non querelleur. Et le serviteur aussi, je crois qu'il est dit, au verset 8, « De même, il faut que les serviteurs soient graves, non doubles en parole, non adonnés à beaucoup de vin. »
Le souci de Paul pour la santé de Timothée nous rappelle une réalité que Paul évoque aussi à la fin de la deuxième épître aux Thessaloniciens, au verset 23, quand il leur dit « Or le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement, et que votre esprit et votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. » Votre esprit, votre âme et votre corps. Nous sommes corps, âme, esprit. Nous ne sommes pas juste esprit ou âme. Nous avons un corps matériel qui a aussi sa place, mais qui a aussi comme que sa place. Donc auquel, dans ce que nous sommes en train d'étudier, à Timothée, il rappelait au chapitre 4, il rappelait par rapport à l'exercice corporel, verset 8, est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses. Donc la juste mesure à donner aux soins, les justes soins, la juste mesure de la place que l'on donne à chacune de ces parties, si on peut dire, de ce dont nous sommes faits. Je pense encore à un autre passage dans la troisième épître de Jean, où Jean, en s'adressant à Gaïus, au verset 2, « Bien-aimé, je souhaite qu'à tous égards tu prospères et que tu sois en bonne santé comme ton âme prospère. » Que tu sois en bonne santé comme ton âme prospère. Un équilibre, un soin équilibré, un souci équilibré de ce que nous sommes tel que Dieu nous a fait dans notre entier. Donc ça se passe aussi par le soin du corps avec la mesure qui convient. Et aujourd'hui, dans notre temps actuel, mais il y a eu d'autres temps, la Rome antique, c'était pareil, on donne beaucoup d'importance à l'exercice physique. Mais en même temps, pour replacer les choses dans leur contexte, nous sommes aujourd'hui dans un contexte où le travail souvent n'est plus physique. Il y a peu de donc il y a un déséquilibre dans le fonctionnement de ce monde, à toute époque, il change simplement de côté. Et justement, dans ces déséquilibres du monde, il nous faut retrouver l'équilibre dans les soins de comment Dieu nous a fait. Et là, ce conseil de Paul, je relève le « un peu de vin ». une mesure, un peu de vin à cause de ton estomac. Je relève juste aussi en passant, par rapport au vin en lui-même, il y a des frères et des sœurs qui, par rapport à qui ont une grande réserve par rapport à l'alcool, et ça se comprend, au point qu'ils sont mal à l'aise quand on prend du vin pour la scène. Et alors on relève en disant, le Seigneur parle du fruit de la vigne et pas du vin. Et alors ils préfèrent qu'on prenne du jus de fruits, du jus de raisin plutôt que du vin. Il faut respecter ce genre d'hésitation ou de retenue, mais en même temps, la parole ne nous enseigne rien de tel, en particulier la pratique concrète. Il était difficile en ce temps de garder un jus de raisin qui ne soit pas fermenté, qui ne fermente pas de lui-même. Donc l'alcool était là dans ce vin très vite, sauf au moment de la saison des raisins. Donc quelque part, on a là ce passage nous donne aussi cette... nous rassure, si on peut dire, le problème que Dieu met devant nous, ce n'est pas l'alcool, c'est le manque de mesure dans l'alcool. C'est l'alcool au mauvais moment, au mauvais endroit, dans la mauvaise quantité. Voilà. Ça rejoint ces deux termes qui reviennent assez souvent, aussi dans 2 Pierre 1, la tempérance et puis la sobriété qu'on a concernant le serviteur et le surveillant. La mesure, la juste mesure des choses, combien nous avons besoin d'être enseignés, autant dans ce qui concerne notre âme, notre esprit que notre corps.
Peut-être dire encore ceci, ce conseil de l'apôtre relève d'un profond amour d'un côté pour son enfant Timothée et une profonde communion entre lui et Timothée. Nous pouvons voir dans 1 Corinthiens 6, au verset 15, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Au verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu? Et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été acheté à prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps. Dans ce passage, nous voyons que d'un côté, c'est de la tendresse pour son enfant Timothée de lui donner ce conseil. D'un autre côté, c'est aussi une parfaite connaissance que pour Timothée, ce qui était très important, c'était effectivement de se garder pur lui-même. Et dans ces exercices et dans ces profondes questions qu'il pouvait avoir devant lui, dans le contexte qui était le sien, nous pouvons voir qu'il aurait pu avoir le danger de négliger son corps, le faire passer après. Et la parole vient nous rappeler que nous ne nous appartenons plus, nous avons été achetés à prix, et nous pouvons même glorifier Dieu dans nos corps. Combien cela nous fait du bien de voir l'apôtre dire cela à Timothée, et combien en même temps cela nous reprend de voir qu'il peut lui dire cela, sans crainte, sans danger, connaissant exactement ce qu'il y avait dans le cœur de son enfant Timothée.
Pour continuer sur 1 Corinthiens 6, donc il nous est dit de glorifier Dieu dans notre corps. Et nous savons que nous avons été délivrés de l'esclavage du péché pour appartenir à celui qui l'a racheté au prix le plus élevé qui soit. Et c'est un prix incalculable. Et donc nous avons été achetés à prix, et le prix, c'est le sang précieux de Christ. Et nous savons que la valeur d'un objet est toujours déterminée par le prix payé pour obtenir cet objet. Et donc, si nous appartenons à Christ et que le prix qui a été payé, c'est le sang précieux de Christ, nous voyons donc que nos corps, la valeur de notre corps, la valeur du corps du croyant, eh bien, est d'un prix très élevé, puisque le prix qui a été payé a été le sang précieux de Christ. Et aussi, il y a un autre côté sur la valeur du corps, c'est que le corps du croyant, qui sera transformé, eh bien, participera à la gloire du ciel, à la gloire future. Et aussi, comme il a été dit, le corps du chrétien est aussi le temple du Saint-Esprit. Et donc nous voyons que nos corps, eh bien, ils appartiennent à Dieu, mais que le prix qui a été payé et la valeur de notre corps pour Christ et pour Dieu lui-même, eh bien, ce prix a été déterminé par cette valeur du sang précieux de Christ qui a été répandu pour nous. Et la valeur de notre corps aussi est importante parce que nous allons participer dans des corps transformés, mais des corps véritables, à la gloire du ciel. Et notre corps, je répète aussi, est est le temple du Saint-Esprit. Et alors, comment glorifier Dieu dans notre corps ? Et on peut lire un verset dans Romains 6. C'est un verset qui rejoint donc l'enseignement de 1 Timothée. Verset 12 de Romains 6. Que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel, pour que vous obéissiez aux convoitises de celui-ci. Eh bien, nous glorifierons Dieu, eh bien, quand le péché ne règne pas dans nos corps mortels. Et donc, le sujet d'un Timothée 5, c'est d'éviter toute souillure. Et éviter toute souillure, eh bien, cela signifie que le péché, donc, ne règnera point dans notre corps mortel. Encore une remarque sur 1 Timothée 5. Quelque chose verset 23. Nous voyons donc que l'apôtre Paul avait remarqué donc l'état un peu déficient de Timothée, qui avait des problèmes d'estomac et de fréquentes indispositions. Et nous voyons que Paul ne guérit pas Timothée, alors qu'il avait le don de guérison. Et nous allons regarder où c'est qu'il en est parlé. Et dans le cas d'Épaphrodite aussi, dans Philippiens au chapitre 2, qui avait été malade, nous ne voyons pas l'apôtre Paul qui guérit non plus ses compagnons de service. Et donc, c'était des croyants, des compagnons de Paul, un enfant dans la foi. Eh bien, nous voyons que l'apôtre Paul n'use pas de son don de guérison pour guérir complètement à la fois Timothée et Épaphrodite. Et alors, si nous lisons à la fin des Actes, nous allons comprendre pourquoi, dans le dernier chapitre 28 des Actes des Apôtres, versets 8 et 9, voyant, il arriva que le père de Publius était là, couché, souffrant beaucoup de la fièvre et de la dysenterie. Et Paul, étant entré auprès de lui, pria et lui imposa les mains et le guérit. Mais ceci étant arrivé, les autres malades aussi qui se trouvaient dans l'île vinrent et furent guéris. Nous voyons l'apôtre donc, qui exerce son don de guérison. Et il s'agissait de personnes qui ce n'étaient pas des croyants, c'était des incrédules. Et nous voyons que l'apôtre Paul exerçait son don de guérison vis-à-vis de personnes qui n'avaient pas la foi, tandis que quand il s'agissait de ses compagnons de service, comme Timothée ou comme Épaphrodite, eh bien l'apôtre n'exerçait pas son don de guérison.
On a vu cet équilibre qu'il y a dans la parole entre l'exhortation à Timothée de prendre un peu de vin et puis ce qui était dit aux surveillants et aux serviteurs de ne pas être adonnés au vin. Et on voit une exhortation aussi qui s'applique peut-être à tous dans Éphésiens 5 aussi, où le début du chapitre, c'est Éphésiens 5, verset 1, le mobile de tout ce qui suit, c'est « Soyez donc imitateurs de Dieu comme de bien-aimés enfants ». Et puis on retrouve à la fin du verset 8 « Marchez comme des enfants de lumière ». Et on voit comment ensuite développer, de quelle manière pratique peut se traduire le fait de marcher comme des enfants de lumière. Et on voit au verset 15, on peut dire « Prenez garde à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvus de sagesse ». Et puis au verset 18, « Et ne vous enivrez pas de vin », en quoi il y a de la dissolution. Donc on voit « Mais soyez remplis de l'esprit ». On voit comment se traduit ce fait que nos corps sont le temple du Saint-Esprit, bien nous avons, et que nous sommes appelés à marcher comme des enfants de lumière, bien à ne pas nous enivrer de vin. C'est peut-être quelque chose qui semble évident pour nous, mais qui est peut-être important de rappeler quand on voit comment les pratiques qui existent dans ce monde aujourd'hui, bien c'est peut-être une exhortation utile pour voir que marcher comme des enfants de lumière, eh bien ça suppose aussi de ne pas imiter ce qui se fait dans ce monde aujourd'hui, dans ce domaine-là. Peut-être citer aussi une autre dimension aussi de ce qui est l'instruction qu'on trouve dans la parole dans Romains 14, où il est aussi fait allusion au fait de... Alors là, c'est de ne pas boire de vin. On voit au chapitre, lire au verset 19. Ainsi donc ce chapitre qui parle de l'attitude à avoir les uns envers les autres en considérant ceux qui sont faibles en foi. Mais au verset 19, ainsi donc poursuivons les choses qui tendent à la paix et celles qui tendent à l'édification mutuelle. À cause d'une viande ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Et puis au verset 21, il est bon de ne pas manger de chair, de ne pas boire de vin et de ne faire aucune chose en laquelle ton frère bronche ou est scandalisé ou est faible. Toi, tu es la foi, tu as de la foi et là, pars de vers toi-même devant Dieu. Bien là, ça nous montre aussi peut-être une situation où il convient peut-être de s'abstenir de boire du vin si on voit que tel... manière de faire pourrait être une occasion de chute, pourrait amener notre frère à broncher ou à être scandalisé. Bien, voilà une situation où aussi nous avons à être guidés par ce motif qui est de tendre à la paix et à l'édification mutuelle. Et alors peut-être la suite, c'est de pouvoir enseigner ce frère qui serait scandalisé par le fait de boire du vin. Alors, c'est dans toutes cette situation, ce qui doit guider notre manière de faire, c'est l'édification mutuelle et la paix et l'égard les uns pour les autres.
On
On peut dire aussi, en rapport avec ce qui a été dit là, à propos de Éphésiens 5, dans le Lévitique, Lévitique chapitre 10, verset 8. Et l'Éternel parla à Aaron, disant, « Vous ne boirez point de vin ni de boisson forte, toi et tes fils avec toi, quand vous entrerez dans la tente d'assignation, afin que vous ne mouriez pas. » C'est un statut perpétuel et vos générations, afin que vous discerniez entre ce qui est saint et ce qui est profane, et entre ce qui est impur et ce qui est pur, et afin que vous enseigniez aux fils d'Israël tous les statuts que l'Éternel leur a dit par Moïse. Donc nous voyons que Aaron et ses fils ne pouvaient pas se tenir devant l'Éternel dans la tente d'assignation s'ils avaient bu du vin ni des boissons fortes. Et si nous comparons à Éphésiens 5, verset 18, « Et ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'Esprit, vous entretenant par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur, rendant toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu le Père, étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Et si nous comparons le verset de Lévitique 10, où il était expressément dit à Aaron et à ses fils de ne pas boire de vin ni de boisson forte quand ils entraient dans la tente d'assignation, dans la présence même de l'Éternel, eh bien, nous avons un enseignement aussi identique dans Éphésiens 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin. » Et nous voyons que la présence de Dieu, il n'y a pas de place pour l'excitation de la chair, de l'excitation religieuse. Nous avons des réunions de culte, des réunions d'édification, des réunions de prière, eh bien, ce sont des réunions dans la présence du Seigneur qui est au milieu des deux ou trois. Mais dans cette présence, il n'y a pas de place pour l'excitation religieuse. Il n'y a pas de place, normalement, à l'activité de la chair. Et là, l'apôtre Paul, en s'adressant aux Éphésiens, il dit expressément de « ne vous enivrez pas de vin ». Dans la présence de Dieu, ça ne se passe pas comme dans le monde. On a pu dire aussi qu'ici, le vin, il s'agit aussi d'une excitation comme dans le monde. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, eh bien, comme il nous est dit au verset 19 ou à la fin du verset 18, nous devons être remplis de l'Esprit, nous entretenant par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur. Quelle différence entre la direction de l'Esprit dans une réunion d'assemblée et l'excitation religieuse ou l'excitation qui vient de notre chair. Et donc nous devons faire très attention dans la présence de Dieu, dans la présence du Seigneur Jésus, de ne pas être dirigé par la chair, une chair religieuse ou une excitation comme dans le monde, mais avoir cette direction paisible de l'Esprit qui nous conduit les uns les autres dans la présence de Dieu.
On a peut-être quelque chose de cela justement en Philippiens 3, au verset 3, « Nous qui rendons culte par l'Esprit de Dieu » et un peu plus loin, « et qui n'avons pas confiance en la chair. » Simplement une pensée aussi par rapport au vin, en lien avec Éphésiens 5, On a dit donc que le vin, et on le voit dans la parole, c'est un type de la joie. On en voit quelque chose en Jean 2, par exemple, avec les noces de Cana. Mais aussi, ça peut amener à l'excitation de la chair. Et c'est quand même frappant de voir qu'en Éphésiens 5, s'enivrer de vin est lié justement au fait de s'entretenir par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de vos cœurs au Seigneur. C'est en contraste complet. Et je souhaiterais juste rappeler peut-être, que c'est clair pour la plupart ici, mais quand on voit des cantiques dans l'Ancien Testament, quand on voit des cantiques dans le temps de la grâce, il y a une différence claire dans la manière dont cela s'exprime. Et j'aimerais juste rappeler une chose, c'est que la seule manifestation physique extérieure que l'on voit par rapport à cela, dans le temps de la grâce, c'est le fruit des lèvres, selon ce que l'on trouve en Hébreux 13, verset 15. Offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Il n'y a pas de tapement de main, il n'y a pas de claquement de doigts, il n'y a pas de tapement de pied. La seule manifestation physique extérieure pour la louange, c'est le fruit des lèvres.
Encore une remarque sur l'asservissement. On peut être asservi au vin. Et si nous lisons en particulier dans 1 Corinthiens 6, encore, dans le même chapitre, nous lisons au verset 12, « Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses. Toutes choses me sont permises, mais je ne me laisserai, moi, asservir par aucune. » Cette expression, l'apôtre dit, « Mais je ne me laisserai pas. » Moi, asservir par aucune. Bien, le vin peut être, bien sûr, un asservissement. Et nous trouvons aussi une expression un peu semblable, c'est dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, verset 19. Il est dit, leur promettant la liberté, eux qui sont esclaves de la corruption, c'est pas ça, mais là, car on est esclave de celui par qui on est vaincu. Et donc, toute addiction, que ce soit le vin, et il y a beaucoup d'addictions dans le monde aujourd'hui, et on pourrait en citer des très sérieuses. Peut-être que ce n'est pas le moment, mais l'apôtre Pierre dit « car on est esclave de celui par qui on est vaincu ». Le vin peut nous vaincre. Et sur Internet, en particulier, nous pouvons être asservis par des images vraiment honteuses et il faut faire extrêmement attention à quoi nous sommes asservis. Et les jeunes en particulier, et nous avons été jeunes aussi bien sûr, mais il peut y avoir sur Internet des mauvaises choses auxquelles nous sommes asservis. Ici bien sûr c'est le vin dont il est question, mais il peut y avoir des addictions très sérieuses et très graves qui peuvent occuper nos esprits. Verset suivant, dans 1 Timothée 5, versets 24 et 25, nous voyons que, sans doute en rapport avec ce qui précède aussi, nous voyons que certains péchés sont évidents, sont publics, et que la vie de certains hommes sont comme un livre ouvert. Mais il nous est dit aussi que d'autres péchés sont cachés, sont commis en secret et peut-être même sous le couvert de la bienséance ou même d'une dévotion extérieure. Eh bien, nous savons que ils seront dévoilés plus tard devant le trône de Dieu. Et pour en lire en particulier dans Luc 12, ce qui nous est dit, Luc 12, verset 2, « Il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de secret qui ne sera connu. C'est pourquoi toutes les choses que vous avez dites dans les ténèbres seront entendues dans la lumière, et ce dont vous avez parlé à l'oreille dans les chambres sera publié sur les toits. » Et ce sont des versets qui sont vraiment très, très frappants et qui devraient exercer nos cœurs et nos consciences, quelquefois dans nos entretiens privés, nous souvenir qu'il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de secret qui ne sera connu. C'est pourquoi toutes les choses que vous avez dites dans les ténèbres seront entendues dans la lumière, et ce dont vous avez parlé à l'oreille dans les chambres sera publié sur les toits. Dans le même sens, on peut lire aussi dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5, « Ne jugez rien avant le temps jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui aussi mettra en lumière les choses cachées des ténèbres et qui manifestera les conseils des cœurs, et alors chacun recevra sa louange de la part de Dieu. »
Juste un mot aussi en revenant sur ce qui a été dit par rapport aux addictions et ce qui peut concerner aussi la suite de ce qu'on vient de dire là, dans ces choses qui sont faites dans le secret. Eh bien, on peut dire qu'il y a une ressource pour celui qui prend conscience d'une telle situation. On peut regarder juste ce que le Seigneur dit dans Jean 8. Dans Jean 8, au verset 31, le Seigneur s'adresse aux Juifs. Et alors, il pensait être libre. Au verset 33, ils lui répondirent : « Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes dans la servitude de personne. Comment dis-tu, toi, vous serez rendu libre ?» Il pensait être libre par leur position de juifs, de descendants d'Abraham. En fait, le Seigneur leur ouvre les yeux, leur fait comprendre. Verset 34, Jésus leur répondit, « en vérité, je vous dis, quiconque pratique le péché est esclave du péché. » C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans Pierre, le fait d'être esclave, d'être asservi à celui par qui on est vaincu. Eh bien, cette situation n'est pas sans espoir pour nous. Et c'est pour cela que le Seigneur est venu. Et au verset, on peut lire le verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » On peut dire que dans toute situation dans laquelle peut-être on pourrait être esclave du péché, eh bien, il y a cette réponse parfaite du Seigneur qui est là pour nous affranchir, pour nous délivrer, et le Seigneur qui est puissant aussi pour délivrer des addictions auxquelles on peut être soumis. Bien, voilà, mais c'est la ressource, elle est en lui, et de se tourner vers lui qui est celui qui nous affranchit pour être réellement libre.
Nous voyons donc que le verset 24 suit le verset 22. Et que c'est pour cela qu'il ne faut pas imposer les mains précipitamment à personne, parce que, au verset 24, les péchés de quelques hommes sont manifestes d'avance, mais ceux d'autres hommes aussi les suivent après. Il y a donc l'instruction que les choses indignes vont être révélées tôt ou tard par Dieu, et nous en avons certainement peut-être aussi fait l'expérience. Mais il y a une chose
extraordinaire, une grande grâce, c'est que de même aussi, les bonnes œuvres sont manifestes d'avance et celles qui sont autrement ne peuvent être cachées. Nous voyons au verset 10, nous nous rappelons que nous avons vu un très bel exemple de cela. Quand nous avons vu que la veuve ayant un bon témoignage reçoit à la fin de sa vie des honneurs de la part du Seigneur, nous voyons que ce qu'elle a fait, c'était des choses cachées. Elle a logé des étrangers, elle a lavé les pieds des saints, elle a secouru ceux qui sont dans la tribulation et s'est appliquée à toute bonne œuvre. C'était certainement pas quelque chose qui a été dit par elle ou connu immédiatement peut-être, mais nous voyons que autant Dieu a soin de révéler en son temps les péchés de plusieurs, mais il a aussi soin de manifester à l'avance, même avant le tribunal de Christ, de manifester ce qui a été les bonnes œuvres. Nous ne nous mettons pas en avant, mais sachons que nous avons un Dieu qui désire nous récompenser, nous donner cet honneur-là que nous pourrons garder dans le secret avec lui.
On peut lire aussi dans Matthieu 5, dans le sermon sur la montagne, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il y a des bonnes œuvres qui sont visibles, qui seront visibles par les hommes. Eh bien, le Seigneur dit que peut-être que ces œuvres, eh bien, ces hommes, eh bien, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
Que sa parole.